Bonsoir Noémie Lefebvre, merci beaucoup pour cette lecture intégrale que vous venez de nous faire de votre dernier livre, Parle, publié chez Vertical, qui est votre éditeur, j'allais dire, de toujours, puisque c'est le cinquième texte chez Vertical, après l'autoportrait bleu. J'aime bien citer les titres de vos textes. L'état des sentiments à l'âge adulte, l'enfance politique et poétique de l'emploi. Donc là, il y a Parle, mais alors, sur la première de couve, on lit Parle. Et en tout petit, là-haut, on lit Suivi de Tais-toi. Donc on parlera aussi de Tais-toi, on va démarrer par Parle. Je vais quand même rappeler que vous êtes spécialiste de sciences politiques, enfin vous venez de ce milieu-là. Vous êtes spécialiste de politique musicale franco-allemande. C'est vaste programme, mais ce n'est pas le propos aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, on va parler de Parle et Tais-toi, qui sont deux textes en miroir, deux injonctions contradictoires. Parle, on l'a entendu, c'est la fiction. Et Tais-toi est un texte analytique, un essai sur cette fiction. Un essai que vous faites vous-même de votre propre texte, en totale opposition avec la position de Flaubert qui soutenait qu'un auteur ne doit pas commenter son propre travail. Donc là, on va passer 45 minutes ensemble en adoptant une position totalement anti-flaubertienne, puisque je vais essayer de vous faire parler de votre travail. J'espère que Flaubert ne nous en voudra pas trop et je vais vous demander de ne pas vous taire. Parle, on l'a entendu, c'est un dialogue avec un personnage qui demande à prendre la parole, c'est la première phrase, je peux commencer, et qui finalement va se faire confisquer cette parole par le reste du groupe, et ce groupe va entamer un dialogue, et donc finalement sous couvert de Parle, dès le départ, ça se transforme plutôt en Tais-toi dissimulé. Donc déjà, on aurait pu presque inverser les deux titres entre les deux textes, Noémie.
Oui, alors effectivement, les textes peuvent paraître en miroir, ils ne le sont pas tout à fait, parce qu'il n'y aurait pas Tais-toi s'il n'y avait pas Parle. C'est-à-dire que le second texte est vraiment considéré comme une postface, en fait. Chose qui, effectivement, n'était pas très recommandée par Flaubert, mais que j'ai essayé de défendre comme une possibilité. Avec certains écueils, parce qu'évidemment, quand on parle de son propre texte, c'est quand même difficile de ne pas paraître très très prétentieux, de se prendre pour un savant. Enfin, il y a tout un certain nombre de choses, il y a un peu des pièges partout dans ce type d'exercice. Mais malgré tout, c'est vrai que, d'abord, je me suis beaucoup amusée à le faire. D'abord, effectivement, comme vous disiez, je viens de l'université, donc les formes universitaires sont des formes pour moi amusantes et intéressantes, et amusantes aussi à chercher dans leurs limites, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a les notes bas de page, les citations, etc., qui génèrent un certain nombre de codes de lecture, mais aussi d'écriture. Mais ces codes peuvent être un peu déjoués à la marge, donc fabriquer de temps en temps une fausse note bas de page. Là, il n'y en a qu'une seule, je vous laisserai la trouver. Et puis aussi, respecter la forme et en même temps la pousser un tout petit peu à sa limite. C'était ça qui m'amusait avec Parle. Et puis aussi, me situer sur un terrain où je n'ai absolument aucune compétences universitaires, c'est-à-dire le terrain littéraire, puisque je ne viens pas de la littérature du tout, je n'ai pas fait de parcours universitaire du côté des lettres, mais de la science politique qui est très très loin d'être un domaine littéraire, même si maintenant, comme à peu près partout, il y a des ateliers d'écriture à Sciences Po, et puis une espèce de cours d'écriture qui sont proposés aux étudiants. Mais disons que c'est très récent et que ça n'a pas grand-chose à voir avec une formation de lettres. Donc ça, cet aspect-là, en fait, sur Tais-toi était amusant à écrire pour moi à cause de cette forme que j'aime bien, que j'ai utilisée pour d'autres objets que la littérature. Et voilà, c'est essayer de se frotter un peu avec quelque chose qui est un petit peu trop difficile pour soi, un petit peu plus que ce qu'on sait faire habituellement. Et voilà, c'est un peu toute ma vie est un peu comme ça, et tout ce que je fais est un peu comme ça, toujours.
Dans vos textes aussi, on l'a dit, on l'a entendu, c'est du dialogue. Alors, évidemment, vous avez lu votre texte avec une seule voix, vous étiez seule en scène, mais on le verra, on peut imaginer un nombre défini ou indéfini de personnages, selon le lecteur. Mais c'est la forme du dialogue, après, on n'est pas loin de la forme théâtrale. Cette forme, ce langage très oral, il est présent dans vos textes. Il y a quelque chose de très parlé depuis le début, mais j'ai l'impression que depuis les deux d'avant, depuis l'enfance politique et poétique de l'emploi, il y avait de plus en plus de dialogues, et que là, vous êtes allé au bout du truc, peut-être pas, mais vous êtes allé au bout de cette forme avec, là, cette fois, que du dialogue.
Ouais, en fait, je suis super vexée parce que je trouve pas que je fais j'écris du langage parlé, en fait.
On va y revenir parce que dans ce langage parlé, il y a plein de passés simples et il est hyper.
Non, mais c'est juste que en fait, la forme, elle est travaillée avec l'idée que j'ai pas inventée. Moi, j'écoute ceux qui ont travaillé avant moi, qui ont écrit avant moi, qui ont trouvé des formes avant moi. Et c'est vrai que Queneau, c'est quand même aussi le premier qui nous a dit on peut écrire avec le langage du quotidien, on peut faire entrer dans la langue, la plus écrite, des formes de l'oralité, et que c'est aussi comme ça qu'on enrichit les choses. Alors il y a une raison aussi peut-être plus... d'une certaine manière plus politique pour moi de jouer sur ces registres, c'est que ça permet aussi de déjouer une espèce de rapport direct du lectorat à une forme d'essayer de chercher d'autres manières de parler à travers l'écrit. Voilà, c'est aussi déjoué par le registre, le placement de l'écriture sur un certain mode et de faire entrer de la vie, en fait. C'est un peu ça l'idée. Bon, et puis je pense aussi que c'est parce que on peut aussi chercher dans des formes qui sont apparemment très courantes, comme dire putain, je sais que ça se fait pas trop, mais beaucoup de gens emploient ce terme, en faire quelque chose d'autre que... un simple mot de ponctuation, ou le réutiliser en lui donnant une forme d'esthétique, quoi. Donc ça m'amuse aussi, comme avec le passé simple, des faux passés simples sont amusants parce qu'ils viennent renouveler un peu ce passé simple qui plombe l'écriture souvent. En tout cas, moi, je trouve très lassant les faux passés simples, souvent. Alors, en tout cas, les livres les plus récents, les plus contemporains au passé simple, ça sont un peu indigestes. Donc, revivifier un peu en jouant sur une invention de passé simple qui faussée, c'est un peu le rendre vivant et puis faire repasser le passé simple dans une oralité où là il est complètement absent.
Oui, normalement, à l'oral, le passé simple, c'est très, 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 très peu usité. Alors, on les a entendus à travers votre voix, ces gens, on ne sait pas bien qui ils sont, vous faites en sorte qu'on ne le sache pas, tout ce qu'on sait, c'est qu'ils sont réunis... pour faire un inventaire, on comprend tout à la fin que c'est dans une maison en Normandie. On ne sait pas si c'est un inventaire après décès, un inventaire au moment de la vente d'une maison de famille, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Enfin, ça fait écho pour ceux qui se sont trouvés confrontés à ce genre de situation, ça peut faire écho à ça. On n'en saura rien, on ne sait pas combien ils sont, combien il y a de locuteurs. Finalement, il pourrait presque être autant qu'il y a de répliques ou de tirets quadratins. Il pourrait être que quelques-uns. On ne sait pas si c'est des hommes, des femmes, des hommes et des femmes. En fait, ils sont totalement dissous dans la notion de collectif et avec un collectif unanime. C'est cette notion... Déjà, ils disent « nous ». Il n'y a pas de « je », c'est « nous ». C'est cette notion de collectif... J'allais dire un peu mou, consensus mou, mais ça, on va y revenir dans les propos qu'ils tiennent. Mais déjà, cette notion de dissolution des personnalités dans une espèce d'unanimité, de collectif.
Ouais. Alors, moi, j'aime pas tellement le collectif, hein, je vous dis tout de suite. En fait, j'ai beaucoup de mal avec... personnellement, après, je trouve que c'est très bien quand il y a des collectifs et on réfléchit ensemble, etc. Mais en fait, je suis très individualiste et j'ai essayé de fabriquer plutôt une espèce de... de cœur, ou qui effectivement unanime, mais où chaque prise de parole est singulière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, l'unanimité va pas jouer sur un appauvrissement des contenus, mais en fait chaque prise de parole doit faire avancer quelque chose. Même quand ça tourne en rond, ça doit faire avancer. C'est-à-dire que chaque prise de parole, d'une certaine manière, reste singulière. Donc il y a effectivement un cœur, mais c'est un cœur à la française et pas à l'allemande. C'est un cœur constitué d'individus qui tous vont essayer de faire cœur sans cesse et dire d'ailleurs qu'ils sont unanimes, mais c'est bien peut-être parce qu'ils ne le sont pas autant que ça. Et c'est plutôt cette idée que se déroule entre tous les individus une volonté de réfléchir, de faire progresser une réflexion, sachant que ils sont fragiles, ils le disent dès le début, mais ils sont aussi fragiles sur leur posture intellectuelle. C'est pas, ils sont ce qu'on pourrait appeler en recherche. C'est-à-dire que si on considère que la recherche n'est pas seulement réservée au troisième cycle universitaire et au CNRS. Mais que c'est une attitude, en fait, de l'esprit, une espèce de curiosité qui nous viendrait comme ça. Ils ont envie de comprendre ce qui est en train de se passer et l'occasion de cette rupture de contrat qui consiste à ne pas prendre la parole, à vouloir la prendre plutôt, tout en ne la prenant pas, est une sorte de moteur qui va les démarrer pour essayer de comprendre ce qu'ils sont en train de faire. Et en fait, je pourrais dire que la question de l'urgence, bon, on est tous un peu là-dedans en ce moment, hein, c'est y a l'urgence climatique, l'urgence économique, l'urgence géopolitique, enfin, toutes les urgences sont là pour nous rendre impossible la réflexion et en tout cas pour amenuiser notre capacité à nous mobiliser sur ces urgences. Et en fait, ils vont essayer de le faire quand même. Essayer d'identifier l'endroit où ce qu'on pense, les opinions qu'on peut avoir, la façon dont on voit les choses, vient se heurter à une sorte d'incapacité à agir. Donc c'est là où le texte c'est pas prévu d'avance. J'ai pas commencé à l'écrire en me disant « Ah, je sais comment ils vont raisonner ». C'est à chaque fois qu'ils attrapent un problème, ils voient qu'ils vont pas aller au bout en fait, de ce qu'ils énoncent et ils le disent. Donc c'est au moins, j'aime bien ces personnages parce que aussi ils sont pas, ils disent en fait ça.
Ils sont pas lisses. Alors il y a des dissonances effectivement dans ce groupe. Alors on va l'appeler groupe plutôt que collectif dans cette assemblée. Enfin qui pourrait faire penser à une famille d'ailleurs. Enfin avec, faut pas se disputer et puis on n'est pas d'accord et puis quand même on trouve, voilà, on arrive à pas se disputer tout en exprimant sa position et il y a quelque chose de réunion de famille. Le passage sur Noël y fait penser aussi. Ces questions sociétales qu'ils abordent. Ils les abordent aussi d'un point de vue de classe. Enfin, très vite, dès le début, ils disent qu'ils font partie de la classe moyenne, plutôt du haut de la classe moyenne. Ce positionnement-là, il est important dans cette réflexion.
Bon, on est obligé de les croire. Ils le disent qu'ils sont plutôt de la classe moyenne, plutôt dans le haut du panier. On va les croire. On n'a pas trop le choix, de toute façon. Donc, après, on ne peut pas trop vérifier qui ils sont. Mais bon, dans la mesure où on écrit avec, comme disait Flaubert, on n'écrit pas ce qu'on veut, c'est évidemment plus facile pour moi de parler d'un certain milieu, peut-être, ou d'une certaine catégorie sociale qui ne m'est pas très lointaine pour la mettre en danger et puis aussi pouvoir justement en démonter les principes que de parler de monde auquel je n'appartiens pas. Donc ça, c'est aussi, je pense, c'est une sorte de déontologie aussi de l'écriture. Il y a des gens, ils pensent qu'ils peuvent écrire sur tout, que tous les sujets, c'est bon pour eux. Moi, je ne pense pas, en fait. Je pense qu'on ne peut pas écrire sur tout. Il y a certaines choses que je ne vais pas me permettre d'attraper parce que ce n'est pas à moi d'en parler. Je peux donner la parole à d'autres, mais je ne vais pas écrire, je ne sais pas moi, un livre sur la condition ouvrière aujourd'hui parce que je ne la connais pas, en fait. Je ne l'ai pas vécue. Et même si j'allais faire un stage de 3 mois à 6 mois dans une usine, j'aurais encore pas compris. Donc il faut faire attention à l'endroit d'où on vient et, où, et sur quoi on écrit. Et il me semblait que, de ce point de vue-là, je ne suis pas très éloignée de Flaubert, c'est-à-dire je sais à quel monde j'appartiens, à peu près. Hein. Je ne dis pas que les mondes sont aussi cloisonnés qu'au XIXe siècle, mais voilà, c'est plus facile de parler de cet endroit-là et puis de chercher aussi en quoi ce n'est pas non plus aussi bien défini que ça. Parce qu'effectivement, bon, ce qu'on peut dire sur la classe moyenne, en tout cas, moi, je ne vais pas faire un cours là-dessus, encore moins quand j'écris un roman. Mais bon, aussi bien, on pourrait dire la classe moyenne est de plus en plus importante, ou alors il n'y a plus de classe moyenne. Ou, bon, bon, en fait, on s'en fout un peu. Hein. L'important, c'est qu'il y a un endroit dans un monde social où il y a effectivement une espèce d'entre-deux possible, dont on voit bien les contours, c'est-à-dire un entre-deux où on se dit, qui est tendu un peu vers... En tout cas, qui est obligé un peu de marcher avec ses objectifs de réussite sociale, de réussite économique, et qui en même temps n'est pas très heureux là-dedans, et assez apeuré de ce qui pourrait se passer s'il arrêtait de le faire. Donc c'est cet endroit-là qui m'intéresse. C'est-à-dire que, contrairement à Bouvard et Pécuchet, eux, ils arrêtent leur métier. C'est un gros pari qu'ils font sur leur vie. Ils sont super courageux. Ils disent, bon allez, on arrête, et on va à la campagne, et on essaie, on fait des expériences de vie, en fait, réelles. Là, mes personnages ne font pas ça, en fait. Hein.
Donc, ils ont des envies de petite révolution, mais ils ont peur d'être déclassés quand même. Donc, c'est complexe. Chez eux, c'est très contradictoire.
Je ne leur jette pas la pierre. Moi, j'ai peur aussi. Hein. Je veux dire, c'est une peur qui est présente. Perdre du pouvoir d'achat, perdre la possibilité de payer son loyer ou ses traites, ou mettre de l'essence dans sa voiture. C'est une peur qui porte fort. Donc... sans être dans une grande précarité, même des gens qui sont assez tranquilles économiquement peuvent très bien ressentir la peur de changer de vie. Pour changer de vie, il faut soit être très courageux, ou soit être très riche, ou très tranquille. Donc c'est cet aspect-là, en fait, qui est aussi intéressant. C'est comment on peut compenser par la parole aussi, parce que c'est un endroit libre. En tout cas, on essaie de le rendre libre. Des lignes de possibles qu'on ne va pas accomplir. Donc, c'est pour ça qu'aussi, ils ne se contentent pas de proposer un monde refermé sur eux-mêmes. Ils veulent aussi imaginer des jardins, ils veulent imaginer une société dans laquelle on échangerait avec des colliers, qui sont que des imaginaires déjà là. Donc, c'est bien les idées reçues aussi de Flaubert. C'est-à-dire, on ne peut pas inventer de zéro, c'est difficile. Mais pourquoi pas, après tout, relancer des utopies qui sont des vieilles utopies et dont, qui nous font toujours rêver parce qu'en fait, on ne les a pas réalisées. Et on les voit toujours exister dans les livres, dans les films. Voilà, c'est toujours comme un rêve. Donc ça aussi, c'est une dimension qui m'intéressait, c'est de les laisser projeter, ces personnages, des possibles... Des possibles peut-être uniquement rêvés, mais sur laquelle qui nous reviennent un peu quand on le lit. On se dit, ouais, en fait, ce serait super d'aller au marché avec son petit panier le mercredi, le samedi. On se dirait bonjour avec les gens et tout. C'est trop cool. Et puis, en fait, c'est ce qu'on fait, quoi. C'est ce qu'on rêve aussi. Donc, ce rêve-là, bah, ça nous revient. On s'interroge dessus après quand on le voit.
Ils sont en train de faire un inventorie des objets, mais vous leur faites faire aussi l'inventaire de tout ce qui va mal, de toute leur peur, la peur du réchauffement climatique, de la fin de la démocratie, leur peur des migrants, leur peur de l'évolution de l'économie et du monde du travail, même s'ils ont toujours un pied dedans, ils font corps avec à certains moments et pas d'autres. Donc on a cet inventaire de tout ce qui ne va pas, l'inventaire de leurs utopies, mais il n'y a pas d'inventaire de solutions, parce que les solutions, on ne les a pas, et eux encore moins, parce qu'ils sont en pleine contradiction, ils sont pleins de bonne volonté, mais ils sont assez contradictoires aussi.
Oui, en fait, ce sont des personnages occidentaux 100% et probablement aussi d'un monde chrétien, héritier d'un monde, d'une histoire où la culpabilité joue un grand rôle. Donc, c'est la culpabilité étant ici un peu diluée du fait que elle est pas précisément démarquée de la responsabilité. Donc, il y a une espèce de confusion chez ces personnages, en tout cas, et probablement chez moi aussi, entre la responsabilité et la culpabilité. C'est-à-dire que, effectivement, je suis pas responsable des politiques migratoires européennes, mais je me sens coupable. C'est
tous coupables.
Voilà. Et donc, en fait, c'est compliqué parce que peut-être que, en fait, je suis responsable quand même un peu aussi, et dont la façon dont je me pose ou pas, c'est-à-dire en parole, ok, mais dans les faits, qu'est-ce que je fais? Comment se traduit comment ça se traduit ensuite? Et en fait, ça c'est vraiment un truc que j'ai appris de Jean Kelevitch, qui est mon philosophe de cœur, qui a sans doute plein de défauts, hein, mais moi, Jean Kelevitch, je l'aime pour ça, c'est-à-dire que lui, il a quand même beaucoup réfléchi sur cette morale sociale qui consiste à faire du moralisme, à moraliser, à avoir la bonne posture, à faire le pharisien. Et lui, il pouvait le faire parce qu'en fait, il était résistant. Et il a passé son temps à faire de la résistance pendant que d'autres parlaient de littérature ou de philosophie. Donc ça, c'est intéressant. Jean Kelevitch, il sert un peu, je le magnifie un peu, mais il le mérite d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'il nous pousse à penser le rapport entre la parole et l'action, entre le fait que parfois il vaut mieux se taire, et parfois il faut rien dire. Et là, ils sont trop bavards, ils sont très bavards.
Jusqu'à dire des choses, c'est pourquoi nous aimerions avoir beaucoup d'argent tout en restant sensibles à la misère du monde. Celle-là, je l'aime beaucoup.
Alors, ils sont très bavards, mais au moins ils nous apprennent ça. Enfin, c'est ce que j'essaye d'expliquer aussi dans Tais-toi, c'est que ils ont au moins ce mérite dans leur discours de chercher un discours sincère, c'est-à-dire d'aller directement, d'enlever toute la métacommunication pour aller directement à ce qui importe. Et donc, ils sont parfaitement honnêtes.
Dans Tais-toi, vous dites même qu'ils sont sincères jusqu'à l'hypocrisie, je crois.
Oui, c'est-à-dire qu'ils sont, ils avouent aussi leur hypocrisie. C'est, ils peuvent dire, en fait, ouais, mais nous on est humaniste, mais sans aucune conséquence. Enfin, c'est pas que ça les dérange pas, c'est que ils vont montrer le dessous des cartes. Ils vont pas raconter d'histoire sur ce qu'ils disent ou ce qu'ils font, ne font pas.
Il y a quelque chose de l'ordre de la superficialité du discours aussi, puisqu'à certains moments, il ferait mieux de se taire que de... On a l'impression que ça sort comme ça pense, quoi. Enfin, qu'il n'y a pas de distance. Et en même temps, vous en faites quelque chose de très drôle. Enfin, j'espère que c'était voulu, il n'y a pas que moi qui ris. Mais c'est aussi une ironie qui est extrêmement incisive. Moi, je pense que ça gratte un peu le lecteur, parce que finalement, on se reconnaît un peu, malgré tout, à certains moments, là-dedans. C'est un peu atroce de se prendre ça. Donc à la fois, il y a quelque chose de très... Ils sont très lucides, ils sont un peu lâches, et ça nous ramène, nous-mêmes, à notre situation d'humain et de citoyen du moment, quoi.
Oui, après, je pense qu'ils sont... C'est une sorte d'état des lieux aussi, hein. C'est un état de la réflexion à un moment donné qui dure pas très longtemps, 50 minutes, 45 minutes. Donc sur ce laps de temps, c'est comme une sorte de condensé de prise de conscience et de réflexion en cours de route et qui ne conclut pas et qui ne va pas non plus donner des leçons. C'est pas des donneurs de leçons, c'est plutôt des gens qui essayent de se poser des questions sur... Voilà, leur façon de voir les choses. Mais en fait, ce qui était intéressant à fabriquer, c'est de pas essayer de décrire du réel en trouvant le mot le plus juste, mais de partir d'une rhétorique. C'est vrai que de partir du langage lui-même, et que c'est par le travail sur la forme de la phrase, sur l'enchaînement des mots, sur les associations d'idées ou les associations de sons, qu'on va trouver en fait quelque chose qui va nous rapprocher du réel, et non pas par la précision, en fait, parce qu'il n'y a aucune précision, il précise rien quasiment. Donc on ne peut pas savoir. Ils disent quelques éléments sur le jardin en disant qu'il fait trop chaud, que rien ne pousse, etc. Mais en fait, c'est pas du Proust. Hein. Proust, il sait décrire un jardin autrement que moi, en tout cas, ça c'est certain.
Mais vous êtes énormément amusé avec le langage. Il y a, si à l'oreille, comme ça, il me semble qu'il y a quelques alexandrins qui se... Hein, il y a ces allitérations à certains moments. Il y a effectivement ce jeu avec le putain qui est plus qu'une ponctuation, qui est comme un refrain, ou je ne sais pas comment on pourrait... Enfin, on en fait une poésie. Il y a ce jeu avec le passé simple, effectivement, on l'a dit, de réinvention, enfin, où il se trompe entre le âme, le hymne, le homme, etc. Ça, c'était vraiment un travail et en même temps un jeu avec la langue.
Oui, bah déjà, je n'aime pas travailler. Donc, si je ne joue pas en même temps, ça ne va pas. Donc, oui... C'est forcément un peu ludique, un peu pour s'amuser. Et puis je pense aussi que si moi je m'amuse pas en écrivant, les gens s'amusent pas à me lire. Et la vie est trop courte. Enfin, j'ai besoin que ça vibre aussi par cet aspect-là. Et puis il y a aussi toute... enfin, je veux dire, les alexandrins, il faut les dégonfler un peu. Qui ne sait pas faire un alexandrin? Donc, si on ne joue pas avec l'alexandrin comme forme, il n'y a plus rien à en dire. Donc, alors bien sûr, tout le monde n'est pas Racine, mais je veux dire, c'est pas parce qu'un écrivain a mis un alexandrin dans un roman que ça fait un écrivain. Donc jouons avec cette forme avant tout, et puis essayons de fabriquer aussi autre chose avec. Voilà, c'est ça. Et puis il y a aussi effectivement une espèce de plaisir voilà, au son des mots, à la vitesse d'écriture, enfin la vitesse, le ralentissement, les partis pris un peu musicaux qui peuvent venir, mais qui sont en fait qui peuvent pas non plus être pris comme une ligne d'écriture. Vous choisissez pas une ligne d'écriture en disant bon, je vais faire de la musique avec les mots. Enfin, déjà, c'est super prétentieux et très con de dire ça, mais c'est musical parce que c'est des mots qui sonnent et que donc on peut pas faire abstraction du fait que des mots sonnent ou pas, juste ou pas, tombent juste ou pas, mais ça fait partie du travail. Mais si on est que sur cette dimension, ça fait pas avancer grand chose non plus. Donc voilà, j'essaye de jouer avec les différents éléments de chaque phrase, en n'oubliant pas ce qu'elle veut dire ou pas dire. Mais on peut pas être purement dans le jeu formel non plus. Enfin, pour moi, c'est pas... On peut pas se passer du jeu formel, parce que sinon on perd quelque chose du fond, en fait. On perd vraiment quelque chose de la substance de ce qu'on a à dire. C'est que le jeu sur la forme, la musique des mots, ça fait partie de ce qu'on a à dire. Et si on le met à part, on se dit « Oh, je m'en occuperai plus tard, j'ai mon thème », non, en fait. Ça ne peut pas marcher comme ça.
Et puis, cette assemblée se veut quand même érudite. Donc, on l'a entendu dans la lecture. Alors, nous aspirons en effet à une certaine culture. Et en même temps, oui, ils ont cette fragilité, c'est qu'ils reconnaissent que cette culture, elle n'est pas tout à fait digérée, elle n'est pas tout à fait assimilée. On a lu Proust, on a lu Rousseau. Le contrat social en même temps, puis le passage de l'état de nature au contrat social, oulala, ça allait un peu vite et puis on ne l'a pas signé. Et puis Deleuze et Foucault, ça se complique. Et puis... puis Descartes, et puis Marx et Engels. Bon, alors là, qu'on avoue ne pas avoir lu, alors je ne sais pas si c'est pour une position de classe ou parce qu'il n'y a que les marxistes qui, et encore, qui sont censés les lire, comme vous écrivez. Et ça, c'est drôle parce qu'en fait, finalement, c'est en totale opposition par rapport à Tais-toi, dans Tais-toi. Les références, vos références culturelles sont parfaitement assimilé, vos références intellectuelles, les notes de bas de page. Vous, quand vous parlez d'un auteur, alors à part peut-être la note inventée, mais vous savez de quoi vous parlez. Et ce contraste-là, il est assez drôle aussi. En tout cas, il est, j'imagine, totalement voulu et souhaité.
Ben, c'est-à-dire qu'on ne peut pas écrire Tais-toi en faisant comme ça. C'est impossible. Je ne peux pas dire... Même si moi, je ne me sens pas super calée sur Nathalie Sarraute, je ne peux pas dire... Ouais, je ne connais pas très bien Nathalie Sarraute, mais par contre, j'ai quelques idées sur Silence. Non, en fait, je ne peux pas faire ça. C'est-à-dire qu'il faut, moi, je peux avoir des craintes, mais il faut que quand j'écris un texte voilà, qui a cette forme-là, il faut quand même que je puisse être... au moins rassurer le lecteur, voire me rassurer moi-même. Donc, effectivement, là disons que les formes impliquent des postures différentes. Bon, mais ce qui m'intéressait surtout d'en parler avec ces auteurs, c'est que moi, je pense que les gens réfléchissent avec des auteurs, avec des personnes qui sont mortes ou des personnes qui ne connaissent pas. Tout le temps, en fait, on fait ça. Et on réfléchit avec ce qu'on en retient. Et on en retient ce qu'on peut et on n'est jamais sûr d'avoir bien compris tout à fait. Sauf qu'on ne le dit pas forcément. Et c'est cette espèce d'inconfort peut-être qu'on peut avoir sur les gens qu'on cite, et bien souvent, on le masque, on essaye de ne pas le montrer trop. C'est aussi un jeu, c'est aussi un apprentissage que de savoir... ne pas insister sur les manques des uns et des autres, les lacunes, les difficultés à citer, etc. Donc, suivant le monde social auquel on appartient, on essaie d'appartenir, ces règles-là sont plus ou moins souples, etc. Mais là, encore une fois, comme on est sur un dévoilement de sous-texte, là, il faut le dire, il faut l'avouer, en fait. Donc, à la fois... on peut ne pas avoir bien compris Proust et n'être pas proustien et avoir envie de citer les Verdurin, en fait. D'avoir peur de ressembler aux Verdurin, alors que les Verdurin sont très bien aussi. Donc, voilà, ces questions-là, elles sont... cette espèce d'instabilité des références littéraires, elle est intéressante comme, à la fois comme matériau d'écriture, parce que c'est drôle, en fait, de fabriquer ça, mais aussi parce que, en fait, vous connaissez tous autour de vous des Deleuziens qui nous fatiguent, en fait. Les Deleuziens nous fatiguent. Ils sont là à parler de Deleuze pour un oui, pour un non. Moi, j'adore Deleuze, mais ça m'énerve, en fait, au bout d'un moment. Donc, mettre un peu en boîte, jouer un peu avec cette redécouverte, qu'est-ce que c'est que cette notion de concept, ce concept de notion, il y a un moment donné, parler sans cesse de concept, ça vous fait pas de vous Deleuze, calmons-nous. Donc c'est cet aspect-là aussi qui est amusant, c'est de remettre un peu de fragilité dans nos références littéraires ou savantes. Pareil avec Descartes. Évidemment, nous sommes tous héritiers de Descartes. Nos façons d'être, de vivre, de penser le corps, de penser l'âme, la tête, tout ça... tout ça est en lien avec Descartes, mais on n'est pas cartésien pour autant. Et on n'a rien compris à Descartes. Et même quand on essaie de le lire, on ne comprend qu'une partie de ce qu'il raconte. Donc mon Descartes n'est pas le vôtre, n'est pas celui... Chacun se fabrique son idée et on essaie avec ça de fonctionner. Et pourtant, on est traversé par... évidemment, par les idées cartésiennes, on est traversé par Proust aussi, on est traversé par ces figures de la pensée qui ont inventé une manière d'être au monde.
Il y a aussi dans le texte un énorme contraste entre tout ce qu'ils racontent, ils ont quand même... C'est une introspection, ils se remettent en cause malgré tout, ils n'ont pas les solutions, mais ils ont au moins le mérite, ils sont très attachants en fait. Hein. Ils ont plein d'indignation, parfois contradictoires, mais c'est pas grave, elles sont là. Et en même temps, ils sont en train de faire le truc le plus bassement matériel au monde, c'est-à-dire ils comptent des petites cuillères. Quoi. Enfin, ils s'interrogent finalement aussi à ce rapport aux objets. Les petites cuillères, les verres à pied, ils n'en ont pas besoin. Ils vont se ramener des vieux machins chez eux, peut-être par attachement symbolique. Donc ça fait un contraste énorme entre une espèce de réflexion sociétale qui est très importante Et puis un truc aussi bête que des petites cuillères en bois, en plastique, en inox ou en argent.
Non, quoi. Mais les petites cuillères sont un fait social, au sens maussien, c'est un fait social total. Enfin, personne n'échappe à la petite cuillère en Europe. Donc c'est quand même très intéressant de considérer aussi cet aspect-là, c'est-à-dire que trier des objets n'est pas en dehors du monde social. C'est-à-dire que... Il y a eu des époques où il y a peut-être des endroits sur Terre où le rapport des êtres humains aux choses est plus dégagé qu'en Europe. Mais en réalité, on ne peut pas réfléchir en termes sociologiques aujourd'hui sans faire entrer le rapport à la fois à la nature et aux objets manufacturés, aux objets utiles, aux objets inutiles. Ça fait partie du rapport social. Donc la dissociation en fait entre le rapport humain qui serait dans une espèce de perfection de purs esprits à purs esprits, voire de corps à corps, on pourrait dire, et puis le monde vil des objets qui nous entourent, c'est faux. C'est-à-dire que ces objets sont sans cesse en train de nous demander des comptes et d'exister par nous, et c'est nous qui les faisons exister. Bon. Et quand je dis ça, je ne suis pas du tout théoricienne de rien du tout. Ces choses-là ont été découvertes déjà par... en tout cas, mises en avant déjà par Roland Barthes, avec ses mythologies, montrer à quel point une déesse, ce n'est pas qu'une bagnole, en fait. C'est bien plus. Donc, c'est les significations. Voilà, à un moment où on fait un inventaire, ce n'est pas la valeur ne peut pas être le prix. La valeur, elle est déliée de ça, elle est liée à mille autres choses que le prix. Le prix est une dimension éventuelle de la valeur, mais ces questions-là sont éminemment sociales et éminemment philosophiques. Donc c'est là-dessus. Et ça commence dès l'âge auquel les parents vont décider que l'enfant est nourri la cuillère. À partir de ce moment-là, enfin, je veux dire, la cuillère, c'est ça aussi, c'est... La première fois, est-ce que je l'allaite jusqu'à 6 mois ? Est-ce que je le nourris au biberon jusqu'à 2 ans et demi ? Ou est-ce que je lui enfourne une cuillère dès ses 3 mois et demi parce qu'il faut qu'il goûte la compote aux cerises de l'été ? C'est ça la question aussi. Et la cuillère, là, c'est un objet qui ne laisse pas le bébé indifférent. C'est un choc qu'une cuillère.
Le choix de la cuillère n'est pas anodin, donc.
Ouais, après, je dirais c'est plutôt de la théorisation a posteriori. Mais voilà, effectivement, c'est pas anodin.
Le un contre tous, le seul, donc finalement c'est le seul sur qui on saura des petits éléments de vie, il a été riche, il a vécu au-dessus de nos moyens, il a eu un karcher, des plats en forme de poisson, tout ça, il a divorcé, il a vécu dans les bois. Déjà on sent dans ce qui lui est dit qu'il finalement il a toujours été un peu à côté puisqu'il vivait au-dessus de nos moyens, après il a vécu dans les bois un peu hirsute, tout ça. Mais là, il apparaît. Est-ce qu'il apparaît dangereux au groupe ? Moi, c'est le sentiment que j'ai eu qu'il était un. Finalement, qu'on lui confisquait la parole parce qu'il clignotait danger pour le groupe. Et qu'entre autres, ce qu'on lui reproche, on lui reproche au tout début son ton. Donc on imagine que peut-être, on n'en saura rien, il aura adressé la parole à un moment ou à un autre. Mais surtout, ce qu'on lui reproche, c'est son silence. Parce que le silence est bavard.
Oui, ben en fait, c'est mieux qu'ils se taisent, parce que comme ça, on les entend mieux, les autres. Et c'est un espace de projection, en fait. C'est le moyen de projeter quelque chose. Et quand on ne connaît pas très bien, ou qu'on ne comprend pas très bien un comportement, on projette, on essaye de trouver des explications. Et c'est là où se met en route la machine d'interprétation, en fait, hein. Et c'est aussi ça qui était intéressant à essayer de fabriquer. Si ça se trouve, cette personne est tout à fait à presque rien à dire, ou un truc tellement anodin que ce n'était pas la peine de passer 45 minutes à essayer de passer sur tous les aspects possibles de sa prise de parole. Hein, c'est comme s'ils anticipaient aussi sa prise de parole. C'est comme si l'individu qui ne parle pas allait leur reprocher de ne pas avoir de position sur le réchauffement climatique ou sur la politique migratoire européenne. C'est une sorte de, voilà, c'est aussi ce qu'ils projettent. Et ça, bon, c'est un peu l'espace de... comment dire de La conscience par l'autre, qui est un jeu de plateau aussi. Hein, si on est sur un plateau, on a besoin de sentir qu'il y a une altérité, hein, quelque part, pour nous signifier qui on est. Et c'est aussi quelque chose qui n'est pas vrai, enfin qui n'a pas de fondement vrai. On va pas pouvoir trouver dans les projections qu'on peut faire, c'est quelque chose de vrai. C'est ce que je trouve, ça fait penser un peu à cette notion de Freud de l'inquiétante étrangeté. Donc c'est inquiétant, c'est étrange, mais c'est aussi parce que c'est proche. Et donc là, on sent que l'individu en question, il est à la fois lointain et proche. Il en fait partie, il en fait pas partie. Il est unanime, mais il l'est pas. Donc c'est à cet endroit-là, c'est là où ça frotte en fait. Parce que être en désaccord avec des gens qui sont loin, ou vraiment en la dialectique pure, l'antinomie absolue n'est pas très dérangeante. Ce qui est dérangeant, c'est la petite différence qui va nous inquiéter sur nous-mêmes. Bon, de ce point de vue-là, c'est absolument pas un livre novateur. Enfin, je pense que j'enfonce des portes ouvertes. C'est quelque chose que tout le monde peut voir dans plein d'autres livres sûrement, et dans la vie de tous les jours.
C'est drôle parce que par rapport à l'espèce de mise en espace, enfin qui peut avoir l'air, vous avez parlé de jeu de plateau, il y a quelque chose d'un peu théâtral, mais moi ça m'a aussi fait penser à un tribunal, enfin un procès où il y a quelque chose de très oral dans alors il y a une sorte de tribunal aussi, parce que finalement ça pourrait être un tribunal de, j'allais dire, de notre démocratie aussi, le fait de faire cet état du monde et tout ce qui ne va pas, pourrait y avoir cette espèce de procès de l'état du monde. Et puis, le côté, effectivement, reproche, dissimulé, défense, oui mais non, moi, ça m'a un petit peu fait penser à ce qui peut jouer dans un tribunal.
Je sais pas, hein, je pense qu'il n'y a quand même pas de... Enfin, je sais pas du tout pour me comparer à Kafka, parce que je vois pas l'intérêt du tout et la possibilité même, mais c'est vrai que je suis très très loin de fabriquer des... Enfin, mon avis, c'est très très loin de la situation d'accusation, en fait, hein, ou du procès. S'il y a une forme de procès, éventuellement, c'est une sorte d'auto-analyse, mais assez souple, qui n'est pas une auto-analyse où, à la fin, il y aura un coup près et on se retrouvera en prison. Il n'y a pas... Le danger n'est pas la condamnation. On peut se condamner un peu, mais la condamnation ne sera pas dramatique, en fait. Donc le danger est beaucoup plus de déchoir et de plus savoir qui on est, ou de sentir qu'on va prendre... on aurait bien aimé aller quelque part et c'est pas là qu'on va. Et ça, bon, c'est quelque chose qu'on ressent beaucoup plus fortement dans ce monde social là que le fait d'être éventuellement jugé, quoi.
On va parler un petit peu de tais-toi, mais avant je réalise qu'il y a peut-être un mot que j'ai pas employé. Alors si au tout début, pour dire que vous veniez des sciences politiques, effectivement j'ai pas du tout employé ce mot politique, et moi je trouve qu'il y a dans vos textes, cette réflexion politique, alors dans le sens organisation de la société, le rapport au pouvoir, enfin, c'est très présent. C'est quoi pour vous le rapport entre politique et littérature, entre art et littérature ? Et on n'a pas 2 heures.
Déjà, je vais dire tout simplement que c'est pour moi... C'est un peu par obligation que je suis sur le terrain politique, c'est que c'est mon matériau, c'est là où mon matériau est là. J'aurais fait d'autres études, peut-être je parlerais d'autre chose. Si j'avais fait de la biologie, je parlerais plus de l'essence des arbres que je ne le fais là. Donc c'est vrai que venant de la science politique et ayant surtout particulièrement aimé étudier l'histoire des idées politiques, donc aussi assez proche aussi des idées politiques associées à la philosophie. Donc tout ça fait que, évidemment, je me sens mieux sur ce terrain-là que sur un autre. Ceci dit, là où On peut dire que c'est pas un livre politique, dans le sens où c'est pas, c'est très très loin de la littérature engagée. Ça ne m'intéresse pas du tout de faire un livre sur les. Je vois pas où est l'insolence Pour moi, il n'y a aucune pertinence à écrire un livre sur un sujet dit d'actualité parce que ça marquerait mon engagement pour telle ou telle cause. En fait, pour moi, ça passe pas par ça. Ça passe d'abord par la subversion dans la phrase, en fait, la subversion par ce que j'essaie de faire écrire, de faire dire à mes personnages, ou par les références. Donc voilà, s'il y a du politique quelque part, c'est certainement pas de manière proclamée, en fait. Je l'espère pas, voilà.
Non, c'est dissimulé.
C'est que c'est un matériau, en fait. C'est un matériau, l'écriture. C'est mon matériau, c'est ça. C'est mon premier matériau, c'est ça.
On va parler un tout petit peu de tétoir. Je crois qu'il nous reste 3-4 minutes, donc ça va... Finalement, vous définissez... Quand vous faites cette analyse cette postface avec Tétois de votre texte, par tout ce qu'il n'est pas. Un roman, il n'est pas un roman, il n'est pas une nouvelle, il n'est pas un poème, il n'est pas une pièce de théâtre, il n'est pas une pièce radiophonique, il n'est pas un scénario de cinéma. Et j'ai peut-être oublié, je crois que c'est. Voilà. Et en fait, c'est un peu tout ça mélangé, non ? Ou pas ?
Ben, en fait, ce qui m'intéressait, c'était d'essayer de réfléchir avec le lecteur, mais aussi pour moi-même, sur le cadre de lecture. Je pense que c'est très difficile de lire un texte, c'est pas moi qui le pense d'ailleurs, c'est des gens qui ont travaillé sur la sociologie de la lecture, qui nous ont bien expliqué qu'il faut des cadres, en fait. On a des cadres de lecture. Et ces cadres de lecture nous facilitent l'entrée dans un livre. Or là, j'avais fabriqué quelque chose où je ne savais pas comment... je pensais utile d'essayer de faire saisir un cadre de lecture ou de moi-même situer parle par rapport à des cadres de lecture. Des cadres de lecture qui sont aussi parfois des formes esthétiques un peu plus loin de la lecture, mais qui sont aussi des cadres d'écriture possibles. Donc, c'est pour ça qu'il y a le cinéma dedans, par exemple. Donc voilà, c'est l'idée, c'est l'idée des gens qui ont des choix à faire dans la vie. Qu'est-ce que tu veux faire comme étude? Je veux pas faire ça. Je sais pas ce que je veux faire, mais je veux pas faire ça, 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 ça. Voilà, c'était un peu l'idée. Je ne veux pas faire de la sociologie. Je veux pas faire du journalisme. Je ne sais pas ce que je veux faire. Mais peut-être ce sera de la danse ou du cinéma, je n'en sais rien. Donc c'est ça. Donc là, si tu as un texte comme ça, ça veut dire je sais dans quel cadre ce n'est pas ou pas tout à fait. Mais ça peut attraper, si je parle de ces cadres-là, c'est bien que parle à quelque chose à voir avec ces cadres. Donc c'est pas de la poésie, mais ça a à voir avec la poésie. C'est pas du roman, mais ça a à voir avec le roman. C'est pas du cinéma, mais ça a à voir avec... etc. etc. Donc c'est ça, et puis du théâtre bien sûr aussi, parce que c'est peut-être là où c'est quand même le plus apparemment le plus proche. Donc j'essaie de voir quelles sont les affinités de ce texte avec des endroits qui sont des cadres de lecture qui sont bien identifiés.
Je crois qu'on est arrivé au bout de notre temps d'entretien. Je vais juste vous citer une phrase de Tétois. Parle est peut-être bon à quelque chose, puisque c'est à coup sûr une dinguerie de phrase en vers de terre. Une dinguerie de phrase en vers de terre, c'est peut-être ça, plus tout le reste. Merci beaucoup, Noémie. On a réussi à presque pas parler de Flaubert, à pas parler de Normandie.
Mais moi, je veux bien en refaire tout.
Et on peut refaire tout en que de Flaubert. Donc, rendez-vous une prochaine fois pour parler que de Flaubert. Et puis, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, lisez absolument Parle et Tétois. Et puis aussi, allez voir les petites vidéos que Noémie réalise avec Laurent Grappe sur YouTube. Je crois que c'est la page de Studio Doigt-dessus. Dans le genre dinguerie. Alors là, c'est dinguerie de vidéo. Alors je ne sais pas si c'est en vers de terre ou pas, mais c'est absolument savoureux aussi. Merci Noémie. Merci Effraction.
Merci beaucoup.